Transition écologique, énergie solaire, agriculture, vie de nos territoires. Terre Arboots, une aventure paysanne, c'est tout de suite sur MDM.
Troisième épisode de ce magazine au long cours sur Radio MDM. Après Jean-Marc Fabius de Greenlight House Development, à l'initiative de ce projet d'agrivoltaïque dans les Landes. Après Jean-Michel Lamotte, cet arrêt intense, tout à côté d'ailleurs, pas très loin, du Vigneault, puisque c'est au Vigneault que nous sommes avec le troisième épisode. Bonjour Sevan.
Bonjour.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Merci de nous accueillir au Vigneault, sur vos terres, sur votre chez-vous à vous, sur votre maison. En construction aussi, on va évoquer cette aventure ici, puis on va se permettre une petite visite guidée de cette exploitation de jeunes agriculteurs quand même. Je crois qu'on peut commencer par là. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça a commencé cette aventure et l'envie comme ça de se lancer dans ce monde agricole?
Ça fait 4 ans qu'on a démarré, on a 25 et 26 ans, nous avons démarré sur une petite surface, on est aujourd'hui sur une surface de 2 hectares dont 1600 m² de couvert. Et on a lancé l'année dernière en parallèle du maraîchage, du cochon noir en plein air et un petit peu de cochon charcutier.
Alors on est en train de se diriger donc vers votre exploitation, on peut dire ça comme ça. L'idée aussi, ce qui a été là-bas, c'est une maison familiale au Vigneault. Et là, je me tourne vers Lucie peut-être.
C'est ça. Ben alors, on a lancé ce projet l'année dernière de retaper un ancien bâtiment d'élevage de veaux en notre maison d'habitation. Et attenant à la maison, il y aura donc une boutique pour accueillir nos clients sur des horaires d'ouverture la semaine et le dimanche matin.
Très bien. Et là, on est en train donc de pérégriner et de découvrir donc votre lieu et tous les aménagements qui sont en cours. Alors, c'est un projet professionnel, un projet de vie aussi que vous mettez en route avec cette aventure.
Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on veut mener le travail à côté de la maison parce que c'est un travail qui nous prend assez de temps, surtout avec les températures du moment. On travaille très tôt le matin, très tard le soir. Donc, il vaut mieux que ce soit tout sur place parce qu'on... Disons, quand il faut repartir au travail, des fois à 5h l'après-midi pour finir à 10h, il vaut mieux habiter à côté pour pouvoir lier les deux activités.
Alors on se dirige vers où? Dites-moi un petit peu, dressez-moi un petit peu le décor de cet endroit au Vigneault.
Donc à droite là, on a les serres. On a, sous les serres, on a des tomates, on a des concombres, de la courgette. On a un petit peu plus loin, en plein champ, on a de l'oignon, on a de la courgette, de l'aubergine. Et sur la gauche, on voit notre maison et on voit aussi notre boutique qui commence à se dessiner. Et dans le futur assez proche, un labo de transformation pour les porcs.
Est-ce qu'il y aura dans ce labo de transformation?
Il y aura une salle de découpe, il y aura une salle de cuisson pour pouvoir faire de la viande fraîche. Et ensuite, par la suite, de la charcuterie et pourquoi pas de la conserve.
Cette nouvelle aventure, c'est venu comment? C'est une idée qui s'est inscrite naturellement sur le porc et cet atelier de transformation?
Ben, disons que l'atelier maraîchage était plutôt de l'avis de Lucie à la base. Je souhaitais moi plutôt travailler sur du vivant, mais je me suis jamais lancé, on va dire. Et disons que l'année dernière, on a rentré 3 cochons sur la ferme pour manger quelques restes de légumes et se faire un peu de viande pour nous, pour la famille. Et on a eu une énorme demande et du coup on a sauté le pas, c'était le moment.
Là donc nous sommes tout à côté des serres.
Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous ne désherbons rien à part à la main. C'est pour ça qu'il y a un peu de l'herbe partout qui prend le pas légèrement sur les légumes. Et on laisse des allées pour pouvoir les tondre ou y passer la débroussailleuse pour ne pas utiliser du tout de produits. Désherbant.
Ah, parce que ça fait partie
aussi. Ça fait
aussi.
Partie de notre philosophie de vie. Voilà, nous, on essaye de faire un maximum sur la culture naturelle. Donc, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, rien du tout. Juste on en plante plus au cas où on en perde pour pas justement devoir traiter et devoir faire des choses que nous, c'est pas notre philosophie de vie. Voilà. Mmh.
Le monde agricole d'ailleurs, est-ce que vous deux vous y étiez, vous y avez baigné dedans ou c'est venu comment?
Alors nous, tous les deux on a deux milieux différents, donc Sevan il était charpentier, moi fleuriste, mais moi toute ma famille ils sont tous agriculteurs, donc maïs, le canard, et donc moi j'ai baigné dedans depuis toute petite, donc c'est pour ça que moi j'ai eu envie de me lancer là-dedans, puis après Sevan m'a rejoint un petit peu dans l'aventure. Donc, et maintenant, ça fait 4 ans et on ne se voit pas faire autre chose.
Si on doit se permettre le tutoiement, parce qu'on se croise quand même régulièrement au marché de Saint-Roch le samedi matin à Mont-de-Marsan, vous faites partie de ces producteurs, oui. Et des tout jeunes producteurs d'ailleurs, parce que vous êtes en train de reprendre le flambeau.
Voilà, c'est ça. Mais après, c'est une vie qu'on a choisie et qu'on changerait pour rien au monde.
Sévan, tu confirmes, parce que toi, donc, comme on vient de l'entendre, tu étais du monde de charpentier.
Oui.
Cette venue dans le monde agricole avec Lucie, comment ça s'est passé pour toi ?
J'étais pas du tout pour être agriculteur. Et puis finalement, j'ai mis le temps à me mettre dans le bain. Et puis maintenant, je suis un peu plus passionné, même que Lucie, je dirais. J'y passe beaucoup d'heures et je m'en passionne. Même le soir, quand je rentre à la maison, même un peu tout le temps, quoi.
Au début, c'était sceptique, alors il fallait te convaincre.
Très sceptique. Ouais. Très sceptique. J'étais, on va dire, bien là où j'étais. J'avais un salaire stable, j'avais des horaires. Je savais à quelle heure je rentrais à la maison, mais après, bon, on se passionne des choses. Et voilà, les journées passent, et de fil en aiguille, ça, on en arrive là.
Il y avait quelques a priori sur le monde agricole ?
Non, pas forcément, mais je savais très bien que j'allais travailler l'équivalent d'une semaine et demie de travail dans le conventionnel et pour gagner forcément moins. Pendant un petit moment, ça a été très compliqué, mais bon, il faut faire son trou et le trou se fait tout seul.
Et les mots qu'a trouvé Lucia à ce moment-là alors pour convaincre Sévan de venir la rejoindre ?
Ouais, c'était surtout qu'on offre à notre famille une qualité de vie que aucun autre métier n'offre. Certes, on fait des heures, mais on est à la maison tous les jours et on voit notre fille grandir et je trouve que c'est ça le plus important.
Alors ici, à quelle heure ça se passe à côté de Cesser? On y vit évidemment tous les jours, sur des horaires, comme tu le disais tout à l'heure, très tôt le matin, tard le soir.
Là, oui, là, c'est du 6h le matin jusqu'à les jours passés, là, vu qu'il faisait très très chaud, c'était 10h30, 11h, ça, sous la serre, ça monte très très vite. Après, on passe un peu sur le plein champ jusqu'à midi, 1h, et après, ben, on va manger, on se fait une petite pause, et on repart ben, quand la chaleur le permet, hein, parce qu'on travaille quand même du vivant, donc... Disons que tout ce qu'on touche avec la chaleur, ça prend vite mal. Donc on va dire 5h jusqu'à 8h, 9h. La journée se raccourcisse un petit peu cette année parce qu'on a une petite fille qui a 1 an. Donc du coup, il faut être à la maison un peu plus que les autres années.
Quand tu parles de plein champ, c'est un petit peu plus loin par rapport au cerf. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce dit plein champ ?
On y trouve les aubergines, de la courgette, du piment, du poivron, des oignons, de la pomme de terre...
Des haricots verts, m'a soufflé.
Des haricots verts, oui, souffle ici. Des petits pois, mais cette année ça a été compliqué pour le petit pois. On a voulu s'acharner un petit peu tard et puis ça n'en donne pas grand chose de très bien. Donc bon, voilà, il y a un petit peu tout ça.
Il y a combien d'hectares dans votre exploitation ?
On a 2 hectares pour le légume. On a un jardin ici, on a 2 autres petits jardins qui sont équivalents de 70 arbres à peu près. Et ensuite, on a 1 hectare pour les cochons sur une autre parcelle. Et ici, on a à peu près 1/2 hectare.
Est-ce que ça a demandé quelques sacrifices ou investissements financiers que toute cette aventure que vous mettez en route au fur et à mesure ?
Maraîchage, oui. Cochons, plus ou moins. Après, disons que les cochons, on est en train de passer des parcelles en rotation. Donc, du coup, il va falloir clôturer. Il va falloir sécuriser les parcelles pour pas que les cochons aillent à droite à gauche. Et puis, avec les lois et les normes biosécurité, il faut... Il faut s'équiper correctement, il faut de la clôture, il faut des piquets assez gros, il faut du grillage assez costaud, donc ça coûte un petit peu. Sur le maraîchage, ça coûte un peu plus cher, les serres, le tracteur, enfin tous les petits outils qu'il faut, et au tracteur et des outils manuels. Et puis après un peu d'arrosage, un peu de... Il y a quelques coûts, oui, puis après il y a des coûts qu'on paye tous les ans, c'est la semence, parce qu'on se fait le plan nous-mêmes. C'est le plan d'oignons et le plan de poireaux, parce qu'on ne se le fait pas nous, on n'est pas capable de le faire, donc on l'achète. Donc c'est toujours des frais qui rentrent en compte.
Avec toujours en ligne de mire le côté aussi respect environnemental.
Exactement.
Par rapport aux produits phytosanitaires et autres qui prennent. Ça a été un désir d'entrée que Lucie, tu avais déjà présent ?
Oui, enfin, c'était une logique. C'était logique pour moi, je ne voyais pas faire de l'agriculture autrement, quoi. Mmh.
Et tout ça, ce dont tu viens de parler, Sévan, ça fait lien aussi avec toutes les petites recherches que tu fais, le fait que tu sois de façon permanente pratiquement à l'affût de tout ça.
Exactement, je suis sur des, on va dire sur Facebook, on va appeler ça des forums, c'est des regroupements de producteurs, il y a beaucoup d'idées qui se passent de uns aux autres, beaucoup de solutions, parce que cette année par exemple, il y a énormément de pucerons, il y en a partout, avec la chaleur qu'il a fait très tôt dans l'année, ça favorise l'arrivée des pucerons fortement. Donc du coup, on se donne un petit peu des petits coups de passe-passe pour essayer de gérer ça. Bon, ça marche pas, ça dépend des fois.
s'expérimente aussi alors, de temps en temps, c'est ça, il y a des tentatives de petites choses comme
exactement,
ça.
Ouais. C'est ça, c'est... Bon, là, on a commencé à arrêter les tests parce qu'on a passé 4 ans à tester des choses, des nouveaux légumes, des façons de faire. Là, on s'est cadré sur une manière de travailler, sur des variétés, des légumes qu'on fait, d'autres qu'on ne fait plus. Parce qu'il y en a qu'on va réussir une année, qu'on va rater pendant 2 ans. Disons qu'on a besoin de stabilité, donc du coup, on s'est un petit peu plus cadré sur la chose.
Et parmi les valeurs sûres là, que vous avez mis en route, il y a quoi alors?
Bon, ça reste le légume classique, hein, c'est pommes de terre. Là, on a réussi la carotte. Disons que la carotte chez nous, c'est assez compliqué, la terre est dure. Donc là, on a réussi une bande de carottes. Ça marche une fois sur 5 ou 6. Donc voilà, après, aubergines, courgettes, piments, poivrons, le poireau. Les choux, tomates, c'est des choses quand même qui sont des valeurs assez sûres et disons qui restent bien en place et qui attrapent pas trop de maladies par chez nous.
Et comme on est en plein air, sur le bon air du vigno, on va quand même saluer le petit rafale qui vient de nous passer au-dessus. Alors pas de nos bérets parce qu'on l'a passé à terre, mais de nos têtes dans ce ciel un peu chargé parce que on réécoutera ça évidemment sur les ondes radio OMNEM. Mais la pluie de ces derniers temps, les fortes chaleurs de ces derniers temps, pour vous, qu'est-ce que ça peut induire et qu'est-ce que ça peut poser comme problème?
Ben déjà vivement la pluie, parce que disons qu'il faut arroser sinon, il faut mettre en place l'arrosage, il faut s'en occuper, l'allumer, s'en occuper parce que ça se bouge, il y a toujours des soucis, mais après, manque d'eau, nous on n'en a pas forcément énormément, parce qu'on a, quand même un lac à la maison qui a été creusé pour l'irrigation, donc du coup, on arrive à faire face, mais c'est toujours du travail en plus. Disons que les journées sont chargées, et puis quand il y a besoin, il faut arroser en plus, et l'arrosage souvent c'est le soir, c'est pas à la chaleur, parce que ça brûle sinon. Donc c'est quelques heures de plus de boulot par semaine.
Ouais, on aura bien compris que c'est une activité passion aussi, hein, et qui fait qu'on n'en compte pas son temps et qu'on est tout le temps dans cette idée de faire avancer les choses.
C'est ça. Si, je pense que si on est maraîcher et qu'on n'est pas passionné, c'est un métier qui ne se fait pas correctement.
Lucie, est-ce que tu as été surprise peut-être par la façon dont Sévan a pris ce projet un peu à bras le corps avec toi? Bon, je sais, je rentre un peu dans votre intimité, mais on reste quand même dans le professionnel.
Non, mais pas plus que ça, parce que je sais que tout ce qu'il fait, il le fait avec passion, donc il suffit que ça lui plaise. Mais moi, j'en étais sûre qu'après, quand on y goûte, on ne peut pas faire autrement.
Le côté un peu qu'on peut évoquer, puisqu'on a parlé du marché Saint-Roch avant de Marsan le samedi, le côté rapport commercial aux gens, le marché, l'atmosphère, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment vous vivez ça?
J'ai eu beaucoup de mal au début, c'était pas du tout mon truc, mais vraiment pas. J'ai mis, on va dire, un mois et demi, 2 mois à me faire un petit peu la relation client et à reconnaître les clients, parce que je suis pas du tout physionomiste. Mais là maintenant c'est bon, j'ai mon petit cercle, disons que j'ai du mal à m'en passer. Des fois quand on saute un samedi, parce qu'on se prend un week-end une ou deux fois dans l'année, le samedi d'après il me tarde d'y revenir.
Ouais. C'était quoi? C'était un peu de timidité au début? C'était quoi?
De pas forcément la timidité, de pas savoir comment faire. De pas savoir comment aborder le client, parce que c'était pas du tout mon métier. Lucie était fleuriste, elle faisait un petit peu de vente, donc du coup, savait comment faire. Mais moi, j'ai appris sur le tas et ça s'est fait tout seul. Hein.
Lucie?
Moi, j'ai pas eu. Moi, ça m'a pas posé trop de difficultés. C'était mon métier avant, donc certes, je vendais pas la même chose, mais la relation client, je l'ai appris, je l'ai étudié, et puis même, c'est après, faut aimer ça, c'est tout. Je pense que si quand on aime ça et qu'on a le sourire, le reste vient tout seul.
On sort d'une période évidemment fort délicate, hein, on ne peut pas faire autrement que de l'évoquer. Comment ça s'est passé pour vous depuis cette crise et cette pandémie, et la façon dont vous avez vécu ça, est-ce que ça induit aussi au niveau de votre activité professionnelle?
Ben, ça s'est très très bien passé, même énormément bien passé, parce qu'on avait mis en culture beaucoup plus de légumes. Et bien heureusement, parce qu'on a bon, les marchés se sont arrêtés, il y avait un drive qui était proposé sur le marché de Mont-de-Marsan. Malheureusement, on s'était déjà mis à faire de la livraison et des points de collecte de paniers avant ça, donc on n'a pas pu y répondre. Mais disons qu'on partait sur 250-300 commandes minimum par semaine, soit en livraison, soit en point de collecte par la suite, parce qu'en livraison, ça devenait trop compliqué. Et disons que le Covid, nous, comparé à certains, nous a permis de faire un bond énorme sur notre croissance, quoi.
Ouais. Les gens se sont beaucoup rapprochés des producteurs locaux et se sont mis à manger normalement, je dirais pour nous, mais à mieux manger, quoi, à se rapprocher du local, et on l'a bien vu. Enfin, pour nous, du moins, on l'a bien vu.
Ouais, si on l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu dans les différents médias, que ce soit locaux ou nationaux, mais ça correspond vraiment à une réalité, quoi.
Ah oui, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Moins que pendant le Covid, heureusement, parce qu'on n'aurait pas pu suivre la cadence. mais c'est encore le cas aujourd'hui.
De votre point de vue de jeunes agriculteurs, de jeunes couples et d'exploitants, vous pensez que c'est quelque chose qui va se maintenir, a priori, comme ça, sur les semaines et les mois et les années à venir, peut-être ?
Ça serait bien. Ça serait bien parce que on a une économie qui est quand même locale et on va faire travailler l'économie étrangère. C'est totalement dommage, mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Le but, c'est de revenir un minimum à ce qui se fait ici, quoi. C'est dommage de l'envoyer ailleurs pour aller l'acheter ailleurs après en suivant.
Alors, si on revient un petit peu sur nos pas, parce que j'ai bien vu sur mon côté gauche qu'il y avait quand même les fameux ports dont vous nous avez parlé tout à l'heure avec cette nouvelle activité. Dommage. Enfin, en même temps, on sait bien qu'à la radio, il n'y a pas l'image, c'est quand même fait pour ça. Mais les décrire peut-être, ces animaux, assez impressionnant. Racontez-moi un petit peu de votre rapport au port, si je puis m'exprimer ainsi. Vous en avez combien, donc, actuellement ?
Là, on a eu 50 petits. On a 6 truies qui ont mis bas pour ces 50 petits. Et on a 20 charcutiers à l'engraissement. Donc, ce qui nous donne en tout, enfin, avec d'autres truies gasconnes à l'engraissement, on a en tout du coup 70-75 porcs en tout. Entre les petits, les gros, voilà.
Et c'est du porc noir gascon et ibérique pour le noir. Et après, le porc rose traditionnel, mais tout en plein air, autant que le noir. De leur naissance à leur abattage, ils sont tout le temps dehors. Voilà, nos femelles, elles mettent bas naturellement, toutes seules, dans des cabanes en bois. Nous, on est là pour assister au cas où il y ait un problème, mais on laisse faire la nature un maximum. Et c'est là aussi, on retrouve la philosophie de vie du maraîchage dans les cochons, quoi.
Mmh. Et là, comme vous êtes en train de le raconter, ça ne demande pas spécialement plus d'attention, de travail que ça, quoi.
Disons que on a choisi des races assez rustiques, quand même, donc... Disons que le cochon, plus il est dehors et plus il est heureux. Hein. On l'a vu cet hiver, bon, ils en avaient marre de la boue, mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Et puis là, il y a encore 2 jours, j'ai mis sur notre page Facebook que j'arrosais, que les cochons, on les trempe parce qu'ils souffrent de la chaleur. C'est la seule chose qu'on a vraiment, vraiment à faire là en plein été, leur apporter des mares de boue. Quoi. Mmh.
Après, c'est presque autosuffisance, quoi, dans leur façon de vivre et la façon d'être.
Bah, disons qu'on, bon, l'été, là, on arrive dans une période où on commence à avoir beaucoup de restes de légumes, donc on arrive à 50% de leur ration par jour à peu près en légumes. Sinon, après, on leur donne un aliment et puis de l'eau.
Et après, ça se passe comment sur le vous parlez des charcutiers, après, de la façon dont ça évolue, comment ça se passe? Vous avez des liens, des lieux comme ça, vous allez faire abattre et...
Alors, pour l'instant, on amène nos porcs à l'abattoir d'Agetmo, qui les abat, qui les transfère à la maison du jambon de Bayonne à Arzac. Donc là, on leur demande le cochon comme on le veut et ils nous le livrent à la maison. Et le but prochain, là, pour on va dire 2022, c'est d'amener à l'abattoir les porcs et de les récupérer, de se les découper dans le labo à la maison.
Voilà.
Le calendrier par rapport à ce labo, c'est prévu pour quand ?
Là, janvier 2022. Normalement, on espère commencer les travaux courant septembre, début octobre. Et que ce soit en route janvier ou février, on va dire.
Ouais. L'objectif, c'est toujours d'avoir le maximum d'indépendance par rapport à votre activité.
Ouais. Totalement.
Et ça va vous demander presque de découvrir presque notre métier ou d'élargir votre pratique.
C'est ça. Disons qu'on a, une chance, c'est le papa de Lucie qui a beaucoup, beaucoup de connaissances là-dedans.
Donc, il était boucher et cuisinier, donc il va nous apprendre son savoir-faire pour qu'on ait un maximum d'indépendance et pour tout se faire sur place. Un maximum, voilà.
Là, on aperçoit le porc qui grignote, qui, je crois, a bien conscience que quelque chose se passe au niveau médiatique aujourd'hui du côté du vigneron. Tentative d'interview. Je peux me rapprocher un petit peu ou
Oui, ils sont gentils.
Un petit tapas, parce que c'est bientôt l'heure de déjeuner ici au Vigno. Ça pèse combien ?
Là, celui-là, il pèse 150.
150 kilos.
150, après on a des un peu plus gros, les femelles là, je font 170, je pense. Et après, on en a des un petit peu plus gros sur l'autre parcelle pour l'engraissement. Après, c'est des porcs c'est pas des porcs qui font 250 kilos. Hein. C'est des cochons à croissance lente, en 14 mois, ils arrivent à 160, c'est un joli cochon déjà. Celles-là, elles ont 13 mois et Elles ont grandi plutôt vite, on va dire.
Je confirme que ce sont des jolis cochons. Vous passez en exclusivité sur les ondes de radio MDM. Alors, on va en venir peut-être à ce qui nous occupe aussi dans ce magazine, avec le projet Agrivoltaïque. Comment ça s'est passé pour vous? On va réévoquer l'association PATAV avec Jean-Michel Lamotte, qu'on a déjà rencontré dans ce rendez-vous. Comment est-ce que ça s'est passé, le lien et le début de cette aventure pour vous?
Disons que Jean-Michel est une connaissance du père de Lucie. Et le père de Lucie et le parrain de Lucie ont des terres sur la zone de pompage. Donc du coup, ils sont aussi impactés par les photovoltaïques et par du coup cette interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires. Donc du coup, vu qu'eux n'ont pas forcément de projet spécialisé sur ces terres-là, on s'est un petit peu greffé sur la chose pour nous bénéficier d'hectares et amener une nouvelle agriculture, on va dire.
Amener notre savoir-faire au projet, parce que voilà, ils mènent plusieurs cultures, voilà, ils essayent plusieurs cultures, et ils n'avaient personne pour faire les légumes, pour essayer de voir si c'était possible sous les panneaux et les cochons pour l'élevage. Donc nous, Jean-Michel nous a invité à nous greffer sur le projet pour mener la commission légumes et participer à la commission cochons, parce que voilà, nous, c'est notre projet d'être sous ces panneaux. Principalement pour le cochon, parce que lui, il a besoin d'espace. Et les panneaux ne gênent rien, au contraire. Ils lui font de l'ombre. Donc ça serait parfait pour l'élevage de porc. Et donc pour les légumes aussi, bien sûr, ça ne change en rien. Les panneaux ne gênent en rien la culture de légumes ou l'élevage de porc, d'ailleurs.
Alors, sur ici l'exploitation, géographiquement, où est-ce que ça se passerait, ces installations de panneaux? Vous avez déjà une idée ou c'est en cours de réflexion?
Ici, c'est pas sur l'exploitation ici, c'est des terres qu'ils ont à 5 km d'ici, 4-5 km. Donc, il y aurait un petit peu de délocalisation, on va dire. On serait plus autour de la maison, mais disons qu'on travaillerait autrement.
On peut remarquer que le Raphaël est très intéressé par notre discussion ce matin, parce qu'il traîne toujours au-dessus du ciel du vigneau. Au niveau du calendrier, de la façon dont ça se passe, vous en êtes où par rapport à ce projet? C'est en cours, au moment où on se rencontre, qu'est-ce qu'il en est?
Ouais, pour l'instant, c'est en cours, on va dire. En cours, il y a pas mal de décisions à prendre, je pense, pour que le projet avance. Après, nous, on est là pour assister, pour aider. Alors, en ce moment, on mène un pilote chez Marquesto à Ontanks. Donc, et on a été hier soir, d'ailleurs, planter légumes, patates douces, donc aubergines, courgettes, piments, poivrons, pour essayer de voir comment les légumes réagissent avec l'environnement qu'il va y avoir là-bas. Et donc pour l'instant, on est en attente de validation complète du projet pour essayer de se projeter là-dedans. Donc après, le reste, c'est à Jean-Michel d'expliquer tout ça.
Jean-Michel Lamotte, que nous rencontrions à l'occasion du deuxième épisode, vous êtes vraiment à quelques kilomètres ici du domaine Marquesto. Et donc vous avez été planté, donc ça, on est un petit peu dans l'actualité, dans le calendrier de ce projet.
C'est ça, on a été donc hier et pour que le projet avance. Et après, il y a d'autres plantations qui ont été faites, hein, les fruits rouges notamment, on a vu qu'ils étaient mis en place, et du semis, et la station météo. Enfin voilà, ça avance bien du côté de Marquesto. Et donc après, il faudra attendre quelques semaines pour que ça soit vraiment comme ça doit être. Mais voilà, au moins on se rendra bien compte de ce qu'il va y avoir sous ces panneaux.
Est-ce que c'est un projet qui de suite comme ça vous a intéressé par rapport à votre jeunesse aussi, aux envies de découverte, d'expérimentation?
Disons que c'était quelque chose qui nous a intéressé, mais on n'a pas d'hectare à nous sur cette parcelle. Donc on y a été conviés, donc on a profité de l'occasion. Mais disons que ça nous intéressait déjà par le projet, c'est quelque chose qui est quand même assez innovant. Il devrait y avoir un peu de robotique, un peu de nouvelles technologies. Donc par ça, déjà, on peut supprimer tous les phytos, enfin rester dans l'esprit qu'on est aujourd'hui. Donc du coup, on pouvait prétendre à aller y travailler.
Et ça va te demander, Céline, et vous te demander aussi, Lucie, peut-être quelques expérimentations, quelques recherches supplémentaires de tout ça, parce que j'ai bien compris que vous étiez quand même assez curieux de tout ça. Oui. Tu vas essayer de te l'intégrer aussi à ton activité?
Bien sûr. Après, la vie, c'est fait pour apprendre. Hein. Tous les jours, on apprend un petit peu plus, et ça va le faire. Il y a des formations, il faut apprendre.
Oh, on a évoqué tout à l'heure, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce rendez-vous, de ce magazine, on a évoqué tout à l'heure les différents points de vente que vous avez. On peut peut-être les rappeler si vous les avez en tête, et les endroits où on peut vous retrouver tout au long de l'année.
Oui, bon, on est le mercredi matin au marché du Vigneau. On est le jeudi, on part en livraison l'après-midi d'une petite tournée de livraison. Le samedi, on est au marché Saint-Roch et au marché Aire-sur-la-Dour. Et le dimanche matin, on a la ferme. Après, d'ici quelques temps, là, dans un bon mois et demi, je pense, une boutique va ouvrir la maison et les horaires d'ouverture ne sont pas encore définis, mais on ouvrira deux soirs par semaine.
Ah, ça, c'est, on entend le porc qui passe derrière les talenquaires. Enfin, ce ne sont pas tout à fait les talenquaires, ce sont des abris de la tôle qu'il a presque froissé.
Exactement.
Gaillard de la bête. Et puis, si on évoque la communication, les réseaux sociaux, les 2.0, parce que là aussi, ça devient incontournable.
C'est ça, là, on est sur une page Facebook qu'on s'efforce de faire vivre au minimum tous les deux jours. On a beaucoup de monde qui nous suit, on les en remercie d'ailleurs, et on travaille beaucoup sur cette page Facebook parce qu'on a les clients qui réagissent bien à tout ce qu'on peut publier.
Quoi elle s'appelle la page Facebook ?
Du jardin à l'assiette.
Vous avez noté, très chers amis auditrices, auditeurs, du jardin à l'assiette pour venir peut-être découvrir Lucie et Sévan un petit peu plus dans leurs aventures, mais des aventures que je vous souhaite les meilleures possibles avec tous les projets que vous allez mener en route, professionnels et l'intimité, on va pas en parler. Merci beaucoup Lucie.
Merci à toi.
Merci Sévan.
Eh bien merci.
Et puis on se croise au moins au marché Saint-Roch tous les samedis à Mont-de-Marsan. Il faudrait que je vienne un jour au Vigneau quand même le mercredi matin.
Et oui, très beau marché au Vigneau le mercredi matin.
Parce qu'on peut en dire quelques mots du côté du Vigneau. Depuis quelques semaines, là il y a le marché hebdomadaire et il y a beaucoup d'effervescence. Alors je ne suis pas venu, ça gaze bien.
Il faut venir au Vigneau. Ouais. Mais oui, on est pas mal de commerçants, on y retrouve un peu de tout. Et puis voilà, ça met un peu de fraîcheur dans le village où il n'y a pas eu d'animation depuis longtemps. Donc il y a un petit chalet qui est tenu où dedans vous y retrouvez de quoi boire et un petit peu manger. La boulangerie aussi qui est tenue par chaque semaine une association de vignalaises différente. Donc ça met un peu de fraîcheur toutes les semaines, un peu de nouveauté. Donc voilà, c'est un petit marché sympa, un petit marché de village à découvrir.
J'ai même entendu des coiffeuses qui viennent.
Et oui, on a un local qui est réservé pour une coiffeuse et une naturopathe. Voilà, qui se change tous les 15 jours, une différente. Voilà.
Alors, on viendra très vite au Vigneau. Merci beaucoup. Moi, j'y reviendrai. Adichat.
Avec plaisir, oui.
Transition écologique. Énergie solaire. Agriculture. Vie de nos territoires. C'était Terra Boots. Une aventure paysanne. Podcast et informations sur le www.radio-mdm.fr.